Bonjour, bonjour, ma princesse.
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor.
Non, je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet.
Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny.
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon.
Démence et vision d'apocalypse.
Et salut tout le monde, de retour dans Ciné Primitif pour cette première émission de 2026.
Et bonne année à tous et à toutes et à tous.
Bonne année
tout le monde.
En compagnie de Dahu et Bobo, comme d'hab, vous avez passé un bon nouvel an.
Oui.
Oui, de bonnes fêtes de fin d'année.
Pour
englober tout ça, oui.
Ouais. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un thème sympa pour commencer l'année.
Oui, tout à fait. C'était un thème de qui, ça, post-apocalyptique?
C'était moi.
Ah, c'était Dahu, c'était d'un
C'est ce qui nous guette en 2026, voilà. Donc je prépare un peu tout le monde
à
notre futur certain.
Ça nous guette, je ne vais plus dire, depuis les années 50.
Bien sûr.
Et donc, comme d'habitude, on va présenter 6 films de chacun et leur bande-son. Mm-hmm. Et pour commencer sur ce thème, je vous propose un classique sorti en 1973 qui est Soleil Vert. Un film de Richard Fletcher qui a fait aussi 20 000 lieues sous les mers, Les Vikings, L'étrangleur de Boston, Conan le Destructeur. Je vous avoue que j'ai pas vu tous les films.
Bah 20 000 lieues sous les mers, il est
j'ai
génial,
pas vu
à part si tu veux le passage avec Lothari et la guitare qui dure une demi-heure.
Putain, je m'en souvenais plus.
Ah oui. Il est génial comme film, hein, j'adore. Mais voilà, c'est des films d'époque,
avec
des grosses longueurs, quoi.
4 décennies de films, il a commencé en 46, fini en 87. Donc, Soleil Vert, pour en revenir au film, c'est inspiré du roman Soleil Vert de Harry Harrison. À la distribution, on a Charlton Heston, qui a fait aussi Ben-Hur, Les Dix Commandements, La Planète des Singes. Donc là, au moment du film, il est au sommet de sa gloire.
Oui, bien sûr.
Oui. C'était avant La Planète des Singes, je crois, mais il avait fait Ben-Hur.
Avant qu'il parte un peu en couille.
Ouais, ça, ouais. Un peu spécial quand même, je crois.
Bon acteur.
Edward G. Robinson, que je ne connaissais pas, mais qui a joué aussi également dans les 10 commandements, Assurance sur la mort, La femme au portrait. Et Leigh Taylor Young, qui a fait La famille Adams, Les retrouvailles. J'avais présenté le premier La famille Adams, je ne savais même pas qu'il y avait un troisième.
Je l'ai pas vu.
C'est plus du tout les mêmes acteurs.
Non, je vois très bien.
Mais je serais curieux de le voir quand même. Je sais pas si ça vaut le coup.
Je pense que c'est plus intérêt à faire sa vaisselle et son ménage que.
Tim Curry, je crois, c'est ça
ouais.
Qui fait le Gomez.
Ah ouais?
Ouais.
Ah bah pourquoi pas, là, du coup.
Ouais, ouais.
Peut-être mieux de regarder ça que faire ma vaisselle.
Peut-être le coup d'œil. Alors, pour le synopsis de Soleil Vert, en 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le Soleil Vert, sorte de pastille, parvient à nourrir une population miséreuse qui ignore tout de cet aliment. On nous vend ça comme étant fait à base de plancton, je crois, de soja, etc.
D'algues et de plancton.
Oui, personne ne se pose trop de questions parce qu'ils ont déjà la dalle, donc du coup, ils prennent ce qu'il y a à manger.
Ouais, puis ils sont assommés de propagande aussi.
Ouais,
aujourd'hui, le soleil vert.
Bah, c'est l'entreprise d'ailleurs, Soylent, qui produit le soleil vert, qui dirige un peu le monde.
Et genre, oui, à la fin.
À un moment donné, tu bouffes ce que t'as.
Et donc, on est un peu dans une dictature, enfin complètement même. Omniprésente et terriblement répressive, la police assure l'ordre. Un policier, donc, qui est interprété par Charlton Heston, est chargé d'enquêter sur le mystérieux meurtre d'un dirigeant de la société Soylent, qui fabrique donc le soleil vert. Ah.
Là où je me permets, c'est que je pense pas qu'on soit véritablement une dictature. C'est contrôlé juste par l'entreprise,
oui, c'est
qui
l'entreprise
fabrique
qui
la nourriture.
Ouais.
Voilà.
C'est ça. Oh, c'est un peu comme dans tous les trucs de genre Robocop, c'est pareil. Moi, t'as la société.
Ouais.
Le CP qui gère la police, tu vois. C'est, ouais. Après, c'est des sociétés privées qui en fait.
Mais voilà, ceux qui contrôlent la ville de New York, c'est ceux qui les nourrissent.
Ouais. Et bon, c'est un peu une dictature dans le sens où on n'a pas trop son mot à dire, on se pose pas de questions et on obéit.
C'est une société répressive, hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, au péril de sa vie, ce policier va découvrir l'effroyable vérité.
Après, ils disent à un moment donné dans le film, il y a 40 millions d'habitants à New York.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a à peu près 8-9 millions. Donc c'est pour dire que voilà, c'est pour ça que vous voyez dans le film des gens qui dorment dans les escaliers, ouais. Etc. Ça, faut bien en prendre conscience, quoi. Il y a une surpopulation
qui est
énorme.
Mais d'ailleurs, ouais. Le bouquin, à la base, était insisté beaucoup sur la surpopulation, au fait. C'était le sujet du livre. Et le film a rajouté un message écolo. Mmh. Donc là, t'as la pollution qui arrive, t'as l'industrie...
Ils en parlent pas, de la pollution.
Ah si, bah, ouais, si, si dans le dénouement.
T'as le réchauffement. Non, mais t'as. Oui, à la fin, oui. Mais sinon, même... on t'en parle pas.
Non, mais t'es quand même dans une société très industrielle. Hein,
t'as le réchauffement climatique qui arrive, oui. Toutes ces choses-là, ouais. C'est un peu précurseur. Bah, à ce en 70, on commence seulement à en parler.
Voilà, on te dit juste à un moment donné, voilà, dans les fermes, c'est pas la peine d'y aller, c'est extrêmement contrôlé, etc. C'est pas la peine d'aller là-bas. Enfin, en gros.
Mais c'est très avant-gardiste quand même sur des problèmes de société qui arriveront des décennies plus tard.
Bien sûr.
Mais quand même sur une œuvre écologiste.
Je trouve que c'est réducteur. Mais oui.
Non, mais il n'y a pas que ça. Mais le propos est quand même, voilà ce qui pourra arriver dans quelques années si on ne fait rien pour sauver la planète.
Mais on n'a pas véritablement d'informations qui donnent la raison pour laquelle on est arrivé à ça.
Si, dans tout le début, toute l'intro.
Ouais, c'est les images. Du coup, j'ai pas eu l'info.
Oui, bah en fait, ils te contextualisent tout le truc via des photos.
C'est ça.
Et c'est pas mal. C'est un truc que tu retrouves dans d'autres films. Je suis pas sûr que ce soit le premier film à l'avoir fait, mais...
Mais oui, tu comprends un peu comment ils en sont arrivés là, quoi.
Exactement.
De flashback.
Tout des années 70 jusque. C'est en combien que ça se passe
en 2022. 22, c'était il y a 3 ans. 4 ans maintenant.
Ouais. Il y a peut-être un Bruce Willis qui a réussi à sauver le truc.
Laissez-moi Bruce tranquille.
Ouais, non, c'est un film qui est génial. Après, pour les petites anecdotes, Edward G. Robinson, qui joue seul, il était totalement sourd apparemment quand il a fait le film.
Ouais.
Il avait des problèmes de santé et notamment un cancer. La scène où il va se faire euthanasier.
Il pleure véritablement Charlton Heston.
C'est ça.
Il paraît, voilà, parce qu'il sait qu'en fait son partenaire est vraiment malade.
Et apparemment, c'était le seul au courant sur le tournage.
D'accord, je savais pas ça.
Ouais. Il l'a déclaré plus tard, quelques années après, une fois que.
Il l'a mangé.
Non, il l'a pas mangé.
C'est pour ça que quand il est sur ce lit, là, face à ses grandes étendues, ses belles images, etc.
Des cascades.
Et il pleure, et au final, c'est des vrais pleurs.
D'accord. Ouais, c'est ça.
Voilà.
Et c'est le moment, d'ailleurs, où il y a la musique que j'ai sélectionnée pour ce film. C'est pendant la scène d'euthanasie de Sol, donc lui qui est vraiment un peu gardien du monde d'avant. Enfin, qui a la mémoire du passé, où il y avait il y avait la nature, il y avait des animaux, il y avait des champs, les gens vivaient bien. Et ça, d'ailleurs, le personnage principal, a un peu, pour lui, c'est un peu un rêve, un mythe. Enfin, il exagère un peu.
Bien sûr. Après, il y a juste un petit détail qui m'a énormément plu dans ce film. C'est vraiment la condition de la femme dans ce film. Je trouve que les femmes, elles sont appelées mobilier. Quoi.
Ouais, à mobilier, ouais, c'est vrai. Ouais.
Là, ça dénonce.
Ah bah, un beau tour dans le passé, clairement.
Ouais. C'est fantastique, ça.
C'est vrai que c'était important de le souligner.
Quand même, à l'heure actuelle, en plus, avec le mouvement féministe, franchement, ce film.
Retour en arrière du féminisme.
Post-apo.
Et du coup, donc, je disais, pendant la scène d'euthanasie, on a la petite musique de Beethoven.
Le chien.
La sixième... Oui, non, pas le chien.
Quand on parle de Beethoven, on parle forcément du chien. Il n'y a qu'un seul Beethoven.
La sixième symphonie du Saint-Bernard. Pastorale.
D'ailleurs, je crois, je parle pas allemand, mais je crois que Beethoven, ça veut dire Bernard. Donc,
quand on fera le thème animaux, tu pourras nous présenter le film Beethoven et tu pourras nous ressortir cette anecdote.
Je prendrai le 3.
En attendant, je vous propose de passer donc la musique de Soleil Vert, qui est la 6e symphonie de Beethoven, pastorale. Et de retour dans Ciné Primitif sur le thème post-apocalyptique.
Bon, et c'était donc la musique de Soleil Vert, Beethoven, la 6e symphonie pastorale.
Excellent, excellent.
Ouais, très bon film.
Beethoven, appelé Bernard en français. Mais...
Et le film suivant
et le film suivant,
ah non, c'est Dahu, pardon.
C'est moi.
Oui.
Et le film suivant, c'est 28 jours plus tard, sorti en 2002. Donc, 28 jours plus tard, c'est un film réalisé par Danny Boyle, un célèbre réalisateur anglais qui a fait, entre autres, Trainspotting.
Entre autres.
Bah ouais, après, Slumdog Millionnaire, après là, je suis un peu moins fan. Mais voilà, le compositeur sur le film, c'est John Murphy, c'est un film anglais, il dure un peu moins de 2 heures. Il a été un gros succès, il a coûté que 8 millions à tourner, il en a rapporté 10 fois plus. Dans le rôle principal, on trouve Cillian Murphy,
Moi j'adore.
Peaky Blinders.
Oui,
Peaky
Blinders.
Les gens le connaissent surtout pour
ouais,
Batman.
Begins.
Après, dernièrement, Oppenheimer.
Oppenheimer récemment, ouais. Ouais. C'est un,
non, très,
super
très bon acteur.
En plus,
il est
irlandais,
je crois. Ouais, c'est un Irlandais voilà, qui clairement fait un gros doigt d'honneur quand même à l'Angleterre. Et ça c'est agréable.
C'est très bien, ça veut dire.
Ouais. Moi j'aime beaucoup.
C'est toujours plaisir.
Ah, j'aime beaucoup, moi. Donc, quand t'as les Irlandais comme ça, ils font des gros doigts d'honneur à l'Angleterre. J'aime beaucoup.
On retrouve aussi dans le film Selena Harris, qui est dans la plupart des 007 avec Daniel Craig. Spectre, Skyfall, elle joue aussi un Pirate des Caraïbes. Alors, franchement, Pirate des Caraïbes, c'est pas ma cam, donc je pourrais pas vous dire lequel.
Elle joue.
C'est pas dans tous.
Calypso, la déesse des mers.
Avec 2 ou 3, ça marche.
Bref, voilà, mais bon. Sympa.
Il y a Frank qui est interprété par Brendan Gleeson, qu'on voit dans Braveheart et Bon Baiser de Bruges.
Ah, et dans Harry Potter aussi, c'est Maugrey Foley, je suis obligé.
C'est vrai, pareil, ma culture Harry Potter n'est pas ouf.
Ouais, après, vous l'avez aussi dans le film L'Irlandais, que je vous conseille.
L'Irlandais, c'est bien.
Très, très bon. Très, très bon. Il joue un flic. Très sympa. L'Irlandais, regarde.
Ok, bon, on va continuer sur le film. On va passer à Henry West, qui est le major, qui est interprété par Christian Eccleston, que tu retrouves dans des films que tu adores, 60 secondes chrono.
Ouais, c'est le méchant, c'est le parrain.
Ok, j'avais pas cité.
C'était un fonderie, enfin, dans le...
Ouais, et c'est d'ailleurs celui qui avait le plus gros cachet, je crois, sur le film. Et il joue aussi dans Doctor Who. Bon, c'est un film d'horreur post-apocalyptique. Je vais vous résumer l'histoire. Donc en gros, Jim, après s'être réveillé d'un coma de 28 jours, découvre que Londres est désertée. Un virus extrêmement contagieux appelé virus de la rage a ravagé le pays, transformant les humains en créatures violentes. Il rencontre d'autres survivants et tente de fuir ce monde devenu chaotique où le danger ne vient pas seulement des infectés, mais surtout des humains eux-mêmes. Ça résume parfaitement le film, mais il se limite pas à ça, parce que en gros, les films de zombies à l'époque, c'était du zombie qui avançait pas vite. Eux, ils ont cassé les codes en mettant des contaminés qui courent, qui sont complètement déshumanisés et qui veulent aller au plus vite pour contaminer d'autres personnes. Et surtout, un rythme qui est beaucoup plus...
Péchu.
Péchu, ouais. Donc le film, ils l'ont tourné...
Puis angoissant, à tout moment, tu peux te faire attaquer et ça va très vite.
N'importe qui peut mourir, quoi, les personnages principaux, etc.
Ouais, et t'es contaminé en une vingtaine de secondes.
Ouais, c'est ça. Pas le temps de réfléchir, tu tues ton pote s'il est contaminé.
Et le film, il a été tourné seulement 9 semaines. Et du coup, c'est ça qui est assez impressionnant, parce que toutes les scènes dans Londres, où ils ont vidé Londres et tout...
Ah ouais.
Ouais, mais du coup, ils étaient très limités dans les temps de tournage. C'est pour ça qu'ils ont tourné... Vous l'avez vu comment, en quelle qualité? Parce que je déconseille de le voir en Blu-ray, ce film-là. Parce qu'en gros, c'est tourné en des vieilles caméras DV, du moins à l'époque c'était mini DV. En gros, c'est une petite caméra que tu te sers pour faire des clips, des docus et tout. Et tourner avec plusieurs caméras en même temps les scènes pour optimiser le tournage et pas faire énormément de prises.
Je l'ai vu une dizaine de fois, mais en qualité DVD.
Ouais, franchement, DVD ça passe. En Blu-ray, les profondeurs de noir, tu les as pas sur ce genre de caméra. Enfin bref, pour revenir, ça c'était la base. Mais le film, il y a une bande son géniale, le rythme est énorme, l'introduction est parfaite.
Ouais, ça va, je voulais reparler du début du film.
La contextualisation avec l'épidémie, le déclenchement jusqu'au réveil et la scène de l'église.
Alors, le déclenchement, tout impeccable, ça c'est très bien fait, etc. Mais alors, c'est le réveil. Le mec qui se réveille solo dans un hôpital, ça je trouve ça fantastique.
Ouais, dans une méga ville quoi.
Ça je trouve ça fantastique. Mais voilà, le mec il se réveille, il perd personne, et la première chose qu'il fait, c'est ramasser des billets, et tac, là le film il démarre.
Ouais.
Ah, ça, je trouve ça merveilleux.
Jusqu'au moment où il arrive à la colonne où il y a tous les portraits de tous les disparus. Et faut savoir que ce film là en plus il est sorti en 2002 et c'était en plein pendant le 11 septembre en fait. 2001, où t'avais beaucoup déjà des photos de portraits, tout ça.
Ouais.
En fait, tout ça était déjà tourné. Qu'ils sont pas revenus dessus, mais après coup, le réalisateur l'aurait peut-être pas fait.
Oh, cette mise dans l'ambiance là où il se réveille, il est tout seul. Oh, Ouais. Ça, c'est extraordinaire.
Par contre, j'ai l'impression que tu vois deux films en un. Hein, parce qu'il y a deux parties quand même qui sont assez...
Moi, je dirais trois parties.
Ouais, c'est vrai, t'as la partie où il est tout seul.
Et t'as le réveil, où... après t'as la partie où il est...
L'escapade, et après t'as les
militaires. Mais du coup, je sais pas quelle partie je préfère, parce que la dernière partie, elle
est quand
même...
La partie est vraiment
bien. Et il y a une inversion, je trouve, aussi des rôles du... C'est-à-dire que le mec, quand il se réveille, il subit un peu, etc. Ouais. Et c'est la femme qui prend les commandes, qui est un peu la chef. Bien. Et à l'inverse, quand il se retrouve dans le camp militaire... C'est elle qui est un peu soumise aux militaires.
Mais t'as la transformation des personnages au fur et à mesure de l'aventure.
Et t'as une évolution. Le militaire te le résume très bien. Il fait, de toute façon, moi je fais ça depuis 40 ans. On voit des gens qui tuent des gens.
Ouais, voilà.
Et je vois exactement la même chose actuellement.
Mais l'évolution des personnages, elle est merveilleuse.
Que ce soit le militaire et tout, que tu sens venir...
C'est un excellent film. Je vais te dire une chose, il n'y a pas... un truc que je jetterais dans ce film.
Il ouais, bah, y a eu plusieurs fins de tournée après.
Ouais, c'est ça.
Première fois, en fait, il l'emmène pour se faire s'éprouver une balle et puis il l'emmène sur un brancard et il décède.
Alerte spoiler, quand même.
Ouais. Ouais, le film, il a 24 ans.
Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, la première fin avait pas plu dans les projections test. Souvent, on veut un PN, ouais, etc.
Du coup, ils ont mis la fin avec
le halo.
Elle est très bien.
Elle est bien, elle est bien. Ouais,
elle est très bien.
Tu vois, et d'ailleurs, la fin, c'est le seul passage où c'est pas tourné avec caméra numérique, mais avec de la pellicule.
D'accord.
Tu vois, tout le film, c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment tourné avec des caméras de type.
Mais tu le vois, et ça donne une belle ambiance.
Ah ouais, ça
donne une...
A contrario, j'ai vu 28 ans plus tard, il y a une semaine.
Mais le spoil pas, tu vois.
Non, c'est pas mauvais. Bah, c'est la première partie, l'autre partie sera la semaine prochaine.
Ouais, apparemment.
Et regardez-le. Mais il a perdu, du moins le montage, il est complètement à la ramasse. C'est ce qui faisait la force du premier. Parce que tu restes sur un rythme constant, et on a une bande-son géniale, d'ailleurs.
Ouais,
on voit la bande-son. La bande-son de Godspeed You Black Emperor qui passe à Reims dans un mois, deux mois. Seule date en France. Chef-d'œuvre musical.
Et bon, on se la lance.
Et ouais.
Et de retour dans un monde post-apocalyptique.
C'était 28 jours plus tard, et le chef-d'œuvre de Godspeed You Black Emperor qu'on vient d'écouter.
Et maintenant, troisième film, celui de Bobo, le premier de Bobo.
Oui, Le Règne du Feu, sorti en 2002, réalisé par Rob Bowman, qui a réalisé aussi pas mal d'épisodes de X-Files.
Je crois que c'est le film.
Et le film, non, il a réalisé.
D'accord.
Je crois que sur les deux premières saisons, il a réalisé 90% des épisodes.
D'accord.
Ah ouais. La série Castle dernièrement, et aussi le petit film Electra, si jamais vous l'avez vu.
Ça, c'est le truc de super-héros, la fin de super-héros.
Ouais.
Mais pote de Daredevil.
C'est pas fou, mais bon, sympa, c'est Electra quand même. Non, mais à la distribution de ce film, Le Règne du Feu, on a Christian Bale quand même. Je présente pas Christian Bale quand même, mais bon, ça reste Batman quand même.
Montagne de muscles.
Matthew McConaughey, qui est formidable, comme toujours. Isabella Skorupko, qu'on peut retrouver dans GoldenEye.
Effectivement, j'avais pas fait rapprochement, je me demandais où j'avais vu.
Gérard Butler, qui a joué dans 300, qui fait le roi Léonidas.
Ouais, Léonidas.
Et oui, et dans Rock'n'Roller.
Et je suis seul à avoir ce problème, elle confond toujours avec Clive Owen.
Ah ouais?
Clive Owen, les fils de l'homme. On le coupera au montage.
Non, je le laisse, j'assume.
Le synopsis de ce film, Le Règne du Feu, donc, se déroule en 2028. Donc c'est dans pas longtemps, messieurs, c'est dans 2 ans. Dans un monde dévasté et ravagé par les dracons, duquel seules les cendres et les destructions massives subsistent encore, et où l'homme ne se limite plus qu'à être du gibier de potence vivant caché sous terre pour survivre. Un monde froid, austère, cafardeux et dépressif, ne laissant place qu'à une lumière grisonnante d'où de rares clartés de couleurs vives surgissent.
C'est toi qui as écrit ça ?
Personne. Oui, j'ai une belle plume. J'adore ce film parce qu'il est beau, il est court, il est intense.
J'avoue qu'il est très bien foutu, les dragons sont bien foutus.
Je vais le voir au cinéma, ça a pas trop vieilli, les dragons, quand j'ai regardé.
Mais ils sont magnifiques, les dragons, et en plus, ils ont bien bossé dessus, dans le sens où ils voulaient véritablement faire des bêtes réalistes, donc ils ont allié reptiles, volatiles.
Et comme quoi, tu vois, on peut faire des films en 2002, ils sont toujours valables.
Pourtant, il y a beaucoup d'effets de CGI.
Mais tu vois, ils passent bien, c'est sur des bons plans, et ça passe bien. Il y a de la brume, il y a des trucs qui cachent un peu.
Après, en plus, sur le système de cracheur de feu avec les deux glandes, où c'est deux produits chimiques.
C'est pas des vrais dragons, en
fait. Non. Si.
C'est interdit, trop dangereux.
Vous pouvez d'ailleurs en voir un spécimen aux zones de Neville. Je vous conseille d'y aller à côté des pandas.
Alors, pas encore, c'est les pandas.
Il y en avait un Greenland, mais ils l'ont enlevé.
Non, vraiment, il y a eu un gros travail sur les dragons. Et moi, je vous mets au défi de me trouver un film où vous avez des dragons aussi réalistes.
Non, après, c'est beaucoup plus tard.
L'histoire c'est la série Game of Thrones.
Ah non, pas l'histoire.
Pas le corps.
Non mais voilà, et moi j'aime beaucoup ça, très réaliste, et surtout les cascades ont été assurées par les acteurs eux-mêmes. Vous avez des deux
en même temps, ils sont affûtés les deux dans le film.
Ils sont barrés comme jamais là.
Christian Bale, je crois qu'il avait marre quand même un peu plus haut au bout d'un moment.
McConaughey, gros.
Lui, par contre,
le blouson sans manche là.
Et surtout que les films qu'il a fait avant, c'était des comédies et tout. Là, il arrive de nulle part, entre guillemets, pour ce genre de film.
Il est magnifique. Dans ce film, il est magnifique. Mais en plus de voir les deux dans le même film.
C'est combat
de
l'ego.
C'est vraiment deux personnages. Vous avez Matthew McConaughey, c'est le chasseur de dragons. C'est voilà. Le mec, il s'en fout de la nana. Il s'en fout de tout.
Oui, tu dis que ça va être un mec.
Il couche avec la fille, etc. Non.
Il veut des dents de dragon.
Il veut tuer du dragon. Juste là, en fait, il n'a qu'une obsession, c'est tuer du dragon. Et t'as Christian Bale qui est là en protecteur de la population, qui le joue super bien, qui est tiraillé un peu à droite à gauche. Je trouve que il est extrêmement bien joué. La photo, elle est magnifique.
J'en avais des moins bons souvenirs. Moi, je suis pas chieux.
Non, il est bien.
Ouais. Et puis, on a les décors construits grandeur nature, quand même.
Alors, c'est
ouf.
Ouais, mais ça a été tourné où?
C'est en Angleterre, non?
Mais il y avait des...
En Irlande, le château, il a été construit.
Mais pourquoi ils ont construit les châteaux? Il y en a plein là-haut.
Alors, en fait, ils ont construit autour, je pense. Ils ont pas construit entièrement.
Ah oui, d'accord.
Ils sont construits. Château.
J'ai vu ce qu'ils avaient construit.
Ah ouais?
Ouais. Ils l'ont construit, ils l'ont détruit après le film.
Bah, parce qu'il y a pas mal de trucs en studio aussi, c'est pour ça que je me...
Et après, il y a un quartier de Londres qui a été recréé en mode post-apocalyptique,
ouais,
etc.
Ouais, c'est vrai que c'est bien foutu.
Et
quand
ça,
même.
C'est magnifique. Mais franchement, la photo où t'as le dragon là qui est sur le château, qui crache le feu dans le château.
Non, c'est ça. Il y a juste les vêtements qui ont un peu vieilli. Bon, ça, forcément, ça a 24 ans. Mais je trouve que les dragons, du moins, moi, je me suis pas bloqué sur des trucs à la con.
Franchement. Moi, j'ai trouvé l'affaire un peu expédiée, mais.
Ah, faut le conclure, sinon t'as des suites après.
Ouais, c'est ça.
Okay. Sinon, après, dans le truc, il y a un œuf de dragon qui éclot après le générique.
Ouais, non, la boucle est bouclée, c'est-à-dire c'est le gamin qui est le premier à découvrir le dragon.
Ouais.
Et c'est le gamin à la jaguar.
Non, mais je veux dire, ça va vite, t'attends un truc un peu plus ouf au niveau de.
Oui. Mais en fait, c'est parce que t'as une ellipse, il y a quand même au moins plusieurs mois qui se sont passés entre le moment où.
Ouais, mais c'est rapide du coup.
Ouais, mais j'avoue que pas. Oui, parce que ça se passe sur pas longtemps.
Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'était très bien, ça a duré une heure et demie, ça va vite. Voilà, le seul point négatif que je donnerais à ce film, c'est quand même la musique. J'aurais pu attendre de Rob Bowman, quand même, qui était sur du X-Files, d'avoir un compositeur qui mette une musique qui reste un peu dans la tête. Je dirais pas qu'elle est pas bonne, mais elle est un peu passe-partout. Bon, voilà.
Moi, je vous propose qu'on passe à la
musique, la BO de Ed Sheeran, dont la musique, donc, comme je l'ai dit, est pas dingo, mais il y a de bons passages épiques. C'est pas une musique de film qui va vous rester dans la tête.
Ça, c'est toi qui l'as, qui est pas
ça. Ouais. Et c'est en ça que je dirais vraiment que c'est un point pas négatif, mais voilà.
Pas positif non plus.
Ouais, c'est ça qui est dommage.
Je l'annonce quand même, comme vous ne l'avez pas. Hein.
Allez, c'est parti.
Allez, c'est parti. Et on se retrouve dans Ciné Primitif avec après cette super musique.
C'était une BO de Ed Sheeran. Bon, pas fantastique, mais qui passe bien quand même.
Mais le film était cool.
Ah, le film était génial.
Et là, on va passer aux enfants. On va passer à un autre film montré aux enfants, un grand classique, Zardoz, sorti en 1974. Le réalisateur, qui est aussi scénariste, c'est John Boorman, qui a fait L'Exorciste 2, L'Hérétique.
Délivrance qui est vachement bien.
Ouais.
Moi, j'aime bien.
Excalibur, par contre, c'est mitigé. Alors, en tout cas, c'est les trois films pour lesquels on le connaît, essentiellement. À la distribution, on a Sean Connery et son slip rouge.
Oui, alors, c'est le slip de Hulk Hogan. Et il a les jambières aussi.
C'est le même
Ouais, c'est le même slip que Hulk Hogan. Et c'est les jambières de Francis Lalanne.
Donc, Sean Connery, qui est connu pour quelques James Bond, les premiers James Bond, je crois.
Le premier James Bond.
Le, il n'en a fait qu'un. Ok.
Mais c'est surtout c'est lui premier qui a incarné le premier James Bond.
Oui, d'accord. Il a fait les Highlanders, les Incorruptibles,
Indiana Jones et la dernière croisade et plein d'autres, je vais pas tout citer.
Ouais, c'est clair.
Charlotte Rampling qui a fait Swimming Pool, Spy Game ou plus récemment, on l'a vu dans Dune, le Dune de 2021.
Je ne supporte pas.
Je suis pas fan de ce jeu d'actrice en tout cas.
Pas d'expression faciale, fatigue.
Et les autres acteurs, je les ai pas nommés parce que je crois qu'ils ont pas fait grand chose. Le synopsis en 2293, donc là c'est dans longtemps, hein. c'est pas comme
loin.
Les autres films,
c'est loin.
Les autres films c'était le passé pour nous. La Terre a été totalement dévastée et la population humaine est divisée entre les éternels, des humains ayant atteint l'immortalité grâce à la technologie, et les brutes au service des éternels. Cet équilibre social va être bouleversé lorsque Zed, une brute, décide de pénétrer chez les éternels, défiant ainsi le dieu, entre guillemets, Zardoz, parce que Zardoz est en réalité un éternel chargé d'assouvir les brutes, se faisant passer pour un dieu en se cachant à bord d'une tête géante volante.
C'est... Et le but des brutes,
c'est de nourrir les dieux.
C'est de nourrir les dieux. Et en échange, les dieux fournissent des armes aux exterminateurs, je crois qu'ils s'appellent comme ça, pour réduire en esclavage les brutes. Voilà, c'est un système qui, a priori, fonctionne, mais ce film est assez psyché, en tout cas dans sa réalisation.
Oh, clairement, 274.
Ouais, c'est ce qui peut déranger un peu, ce qui rend un côté un peu nanar. Je pense que toi, c'est surtout ça qui t'a
marqué. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, j'y ai vu aucun intérêt. Enfin, j'ai vu aucun intérêt visuel à ce film.
Donc, c'est-à-dire que.
Voilà, je préfère lire le film, tu vois, sur un bouquin ou un truc, plutôt que de voir un film comme ça.
On est d'accord que le scénario est pas mal.
Non mais voilà, mais je veux dire, le film en lui-même n'a aucun sens. N'a aucun intérêt, c'est pas aucun sens, c'est n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que,
c'est kitsch.
Un film... Non mais un film...
Ouais, t'as un petit côté surréaliste aussi quand même dans le film.
Enfin, je préfère lire un bouquin.
Ouais. Après, moi, je trouve qu'il y a des trucs à sauver, en tout cas sur le thème du film, les rapports de domination.
Mais bien sûr.
Les...
Mais je te parle de visuel. Le thème, le synopsis. Super sympa. Franchement, il est super
moi,
sympa.
Le visuel me choque pas plus que ça. Après, au niveau du pitch, il est sorti un an après La Montagne Sacrée. Et tu ressens un peu des petits trucs du film de Jodorowsky.
Ok.
Moi, il y a des trucs que j'aime bien.
Il y a des trucs drôles. Hein, genre, les acteurs, ils jouent pas forcément toujours bien. Des fois, tu sais pas trop où ça va et tout, c'est un peu too much, quoi. Enfin, c'est surjoué, des fois.
Après, ce qui est... moi, j'ai envie de vous dire, vous regardez un extrait de Zardoz qui dure 2 minutes, vous voyez Sean Connery avec les jambières et le slip d'Hulk Hogan. Franchement, vous avez la référence de Zardoz.
C'était pendant longtemps la bannière de Nanarland.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup qui considèrent comme un nanar et d'autres comme un film culte.
Comme un
nanar, moi, je trouve que c'est un entre-deux qui est assez appréciable.
Ouais, je le vois pas comme un nanar. Je le dis juste, je vois pas l'intérêt visuel.
Moi, je pense qu'il a proposé certaines techniques visuelles d'autres films, et sans qu'il ait la vision réelle d'un artiste, tu vois. Comme Jodorowsky avec La Montagne Sacrée, ou d'autres auteurs qui sont plus dans l'esthétique et dans le ressenti, tu vois, avec des trucs très 70. T'as quand même des kaléidoscopes, de la lumière, des trucs... Ça a toute une esthétique vraiment proche de la... des périodes Peace and Love et tout, qui est un peu trop bâclé, je pense, à des moments. Peut-être pour ça qu'il n'a pas fait des grands films à part des Vents, ce que j'aime bien, et que c'est bien.
En 74, tu me sens, je pense qu'il y a la. T'es dans à peu près la fin de la trilogie des dollars. T'es Kubrick,
qu'est-ce c'est pas pareil aussi.
En 74, dans ces eaux-là.
Il y en a plein des films en 74.
Voilà. Non, mais tu vois, où il y a un intérêt visuel, tu vois, t'as des westerns de dingue où t'as un intérêt visuel, t'as des beaux plans, des
belles
scènes, de belles images.
Ouais, mais là, ils veulent plus, du moins, t'es plus dans une approche métaphysique, quoi. Après, c'est pas un film obligatoirement à voir, mais je
non, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Mais voilà, j'avais envie de le mettre pour le thème
post-apo.
Ouais,
après, véritablement, Sean Connery en slip rouge, avec les jambières.
Rien que pour ça.
Regarde un extrait de.
Ouais, tu vois, je passe au-dessus, tu vois, j'ai même pas refait.
Ah non, mais au contraire, moi, c'est ça qui me plaît. Ouais. Au contraire, c'est ça qui me plaît. Le fait que ce grand acteur, parce que Sean Connery. Quand même, c'est sire, Sean Connery. C'est peut-être ce que l'Écosse a fait de mieux au monde.
Non, après,
c'est pour ça.
Le whisky.
C'est intéressant. Ouais.
Dans le film, au niveau.
Sean Connery et le whisky, quoi. Et encore, le whisky irlandais, bon.
Dans le film, au niveau de l'histoire, il y a des trucs quand même cool. Ceux qui ont accès à l'immortalité, ils vont se rendre compte que les éternels, ils n'ont pas C'est un monde qui paraît utopique, mais au fait, c'est un peu une dictature où tout le monde doit penser pareil, tout le monde doit suivre le
même chemin. Et puis, ils peuvent pas mourir.
Du coup, il y a cette forme d'apathie,
oui,
cette maladie.
On n'a plus le sexe.
Il y a un rapport au sexe dans ce film qui est assez...
C'est le contexte, un petit peu au niveau de l'action. effectivement, les pendus.
Il y a des passages drôles. C'est original, pour le coup, on peut pas dire qu'il y aura un remake, hein, ça m'étonnerait qu'il y aura un remake de Zardoz un jour.
Ouf, ça m'étonnerait pas.
Ça, je l'attends au tournant.
Est-ce qu'on peut dire d'où ça vient, Zardoz?
Pierce Vireux.
Ah oui, Zardoz.
On peut dire d'où ça vient, Zardoz, parce que Zardoz, ça vient quand même de l'abréviation de Magicien d'Oz, où le mec leur raconte dans leur statut tous des contes, en fait, des bouquins, parce qu'il n'y a plus de bouquins récemment écrits, donc il chauffe des textes et tout, et il fait marcher les humains en leur racontant des...
Mais ce qui est marrant en plus, c'est que lui-même, le dieu Zardoz, qui est censé manipuler Sean Connery, au fait, est lui-même manipulé par le cristal qui est une intelligence artificielle.
Ouais.
Enfin, c'est complet. Ouais, bon, c'est...
Bah, c'est possible, hein. Mais moi, ça me choque pas. J'en ai vu beaucoup des films comme ça.
Non, mais...
C'est loin d'être le pire. En tout cas, c'est ce que je fais bien.
J'avais un peu de taf dans la cuisine à ce moment-là. Bon...
Moi, j'ai apprécié. Je vous propose de finir avec la musique que j'ai sélectionnée. C'est encore du Beethoven.
Le chien.
Et donc, la musique que j'ai sélectionnée, c'est la symphonie numéro 7, cette fois, de Beethoven, Allegretto. Et voilà, c'était la musique de Zardoz, musique de Beethoven spécialement composée pour le film.
Bah
ouais. On retient plus la musique que le film. Mais voilà, c'est pas
plus
mal.
Plus le compositeur, effectivement, ouais, que le réalisateur.
On passe au film suivant.
Alors, le prochain film, c'est Les Fils de l'Homme, Children of Men, réalisé en 2005. C'est un film américano-germanique, britannique plutôt. Réalisé par Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, il a réalisé Harry Potter, Les Prisonniers d'Azkaban.
Ouais, je dirais que c'est le meilleur.
Ouais.
Ah, je suis zéro Harry Potter.
Ouais.
Il a fait aussi Gravity.
Ah, il est bon.
Il est beau. Ouais.
Puis voilà, t'es Sandra Bullock.
Bon, il a écrit une grande partie du scénario et de d'autres collègues. C'est adapté d'un roman qui s'appelle Children of Men, sorti en 92, écrit par P.D. James. C'était un échec au cinéma. Il a coûté 76 millions, il a rapporté que 70 millions international.
C'est ouf. Ah mince.
Mais après, il a retrouvé ça, comme beaucoup de films, à la sortie, bouche à oreille, les DVD, tout ça, ça s'est bien vendu.
Ah bon, impeccable.
un grand carton. Bon, dans la distribution, on retrouve Clive Owen qui joue le principal protagoniste, Theo Farron.
Ouais, Clive Owen. Regardez-le dans Inside Man. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Oui, Inside Man, c'est bien. Dans. Merde, on en parlait tout à l'heure. Sin City.
Oui, Sin City. Mmh.
Sin City. Après, il y a beaucoup de comédies un peu romantiques que je ne connais pas. Mais dans ce film-là, il est parfait. Mmh. Julianne Moore, une superbe actrice, qui trouve aussi dans Boogie Night. On n'a plus rien à prouver. C'est du Gaposki aussi, bien sûr.
Silence des Agneaux.
Dans le 2, ouais.
Ah non, c'est dans Hannibal, ouais, pardon.
Oui, dans Hannibal, elle remplace. Je me souviens plus. Et Jasper Palmer, Michael Caine, qu'on retrouve dans les.
Jodie Foster,
ouais. Merci. Et Michael Caine, qu'on retrouve dans les Batman de Nolan, dans De la mer 4.
Ouais,
dans deux, trois autres films.
Michael Caine, il est partout.
Si je l'ai cité dans Les Dents de la mer 4, le pauvre.
Oh, ouais. On parlera peut-être pas un jour dessus. Je sais pas si j'ai.
Il va nous coller un procès, il est toujours en vie. Grand acteur, Michael Caine.
Ouais, c'est un super acteur. Non, par contre, pour le coup, lui, c'est un. Bon, allez, on va parler du pitch. Dans un futur proche, en 2027, soit dans un an, l'humanité est frappée par une mystérieuse infertilité. Aucun enfant n'est né depuis 18 ans. Le monde sombre dans le chaos, les gouvernements deviennent autoritaires et les réfugiés sont persécutés. Theo Farron, donc Clive Owen, ancien militant désabusé, se retrouve chargé de protéger qui ? Une jeune femme miraculeusement enceinte. Sa mission pourrait bien se représenter le dernier espoir pour l'humanité. Alors, ce film, il a une particularité par rapport à d'autres, c'est qu'il y a beaucoup de plans-séquences, il se vit beaucoup de scènes d'action et du coup...
Très stressant.
On vit vraiment l'action, il prend un contre-pied 28 jours plus tard qui est dans l'instant, mais tu vois, en fait, c'est plein de plans, c'est bien monté, mais c'est toujours la même séquence. Et là, ta séquence, elle vit, que ce soit l'intro avec quand il sort du bar, tout qui pète, ou la scène dans la voiture.
Et puis, ouais, moi, je trouve que tu, à aucun moment donné, tu peux anticiper la fin. Non, il se passe tellement de choses, et il est dans un tel...
Lui, il est désabusé, il arrive dans un tel...
humain.
Mais c'est pas un super-héros. Moi, j'adore, c'est que tous les personnages, c'est des gens un peu lambda que tu peux croiser. Ouais. Et même la fille qui doit protéger...
Julianne Moore, non.
Oui, c'est une militante. Mais genre, la fille qui doit protéger, elle est un peu vulgaire, elle est... et elle a pas l'air de se rendre compte de ce qui lui arrive vraiment et de l'espoir qu'elle représente.
Avant qu'ils s'engagent dans le road movie où ils vont avancer, rencontrer de plus en plus
l'espèce de babos qui la protège aussi, qui est un personnage lambda mais qui
est génial. Le retournement de situation, etc.
Après tu découvres en plus les personnages au fur et à mesure parce que lui, comme dans 28 jours, il se retrouve avec des gens qu'il connaît pas.
Oui, voilà.
Et il découvre le background de chaque personnage.
C'est ça que j'aime, c'est-à-dire que cette relation entre cette femme et Clive Owen, au milieu d'un brouillard politique, idéologique, etc., conflictuel, et puis il fait son chemin. Et je trouve ça merveilleux.
Ouais. Mais le film n'a pas rapporté l'Oscar, mais il y avait des concurrents sérieux à ce moment-là, mais le film est vraiment bon, hein, c'est vraiment un film à voir au moins une fois en
série. Clairement.
Le jeu d'acteur est parfait, les scènes, les séquences, les techniques de réalisation sont quand même folles. Hein. Quand la scène dans la voiture en plan séquence, tu dis que t'as la voiture. Sur le toit de la voiture, t'as l'équipe technique avec la caméra qui te pilote dans la voiture.
Là où ils font le barrage et hop, ils reculent.
Et tout ça, c'est fait. Bon, après,
il y en a plusieurs avec le
micro-séquençage.
Moi, j'aime bien aussi à la fin dans l'immeuble.
Avec les chars qui arrivent et tout. Mais déjà, ça s'ouvre comme ça. Ça commence, explosion, l'arsène dans les oreilles.
Non, très immersif.
Un peu trop, ça me stresse. Hein, j'ai le palpitant quand je regarde ce film. Je suis à fond.
Le rythme est soutenu, tu fais pas chier. Bizarrement, je comprends pas qu'il ait pas marché quand il est sorti. C'est tout, hein, c'est comme ça. Mais ça aborde vraiment des thèmes forts. Les personnages passent par. Parce que Clive Owen, c'est un anti-héros, tu vois. Lui, il y va.
Il est juste blasé.
Il est blasé, tu vois. Il veut que ça évolue.
C'est pas que c'est un anti-héros, c'est-à-dire que ça l'était. Et après, il a perdu son enfant. Dépression.
Mais là, il est en mode...
Dépression, et là, il est en mode...
Il est poker face, mais tu sais qu'il veut progresser pour...
Alcoolique, dépressif, voilà, point barre. Par contre, là, il y a un véritable enjeu. Et là, il se redécouvre.
Clairement, après, il y a un peu de symbolique, je suis moins fan, mais...
Symbolique un peu religieuse.
Fait, il prend aussi... Du moins, ça se veut pas pro-religieux, parce que, comme elle dit, ouais, je suis vierge. Tu fais quoi? Non, je déconne, j'ai arrêté de compter, je sais pas qui c'est le père, quoi. Pas non plus...
C'est pas chaud, quoi.
Non, C'est pas un film pro-cato, c'est post-apo et voilà. Bah, moi je le conseille à tout le monde, vous avez des trucs à rajouter sur ce film?
Franchement, non, parfait.
Il suffit à lui-même, il n'y a pas de suite, il n'y a rien eu, il y a tout.
Et, ouais, et puis la BO est très bonne.
La BO est cool, ouais. Il y a une bonne sélection de musique.
Ouais.
Et j'ai longuement hésité entre plusieurs.
Ah, en plus, celle que tu as sélectionnée, c'est ma préférée.
C'est vrai?
De ce groupe-là, c'est ma préférée.
Ah oui, oui.
Ah, c'est ma préférée.
Ah, c'est...
Là, t'aurais pas pu mieux choisir que celle-là pour ce groupe.
Ah,
vraiment.
Donc, bah, du coup, on s'écoute ta musique.
Allez, ouais,
c'est Deep Purple, c'est Hunt.
Et Daus, c'était Deep Purple.
C'était Deep Purple, Hunt.
Hush, Hush.
Hush, oui, pas Hunt.
Pour le film Les Fils de l'Homme.
Ouais.
Et maintenant, dernier film, Bobo.
L'Armée des Douze Singes, sorti en 96. Film de Terry Gilliam, qui a joué et réalisé dans les Monty Python. Et ainsi que Las Vegas Parano pour les connaisseurs.
Brésil aussi.
Ouais, j'allais dire, c'est réalisateur de Brésil.
Ouais, Las Vegas Parano, Brésil.
À la distribution, Bruce Willis, pour la légende, je ne le présenterai pas. Parce que Bruce Willis parle de lui-même. Mais je l'ai présenté quand même dans un petit die-hard pour Noël.
C'est plus fort que toi. Ouais.
Avec Madeleine Stowe, bon, qui n'a pas fait grand-chose, mais qui est bien présente à l'écran dans ce film. Christopher Plummer, qu'on a pu voir dans Star Trek, ou Brad Pitt, qui a, pour ce rôle, a obtenu un Golden Globe et a été nominé aux Oscars pour le second rôle. David Morse, qu'on retrouve dans La Ligne Verte, qui joue, vous le savez, Brutus. Voilà, pour le cinéma. Bon, ben, on revient à L'Armée des Douze Singes, quand même, le synopsis de ce film, sorti en 96. Nous sommes en 2035. Dans... Eh ouais, dans 9 ans.
9 ans.
Les quelques milliers d'habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d'un virus ayant décimé 99% de la population. Autant dire qu'il ne reste pas grand monde.
1%. Alors, après, ça, c'est ce qu'ils disent.
Les survivants mettent tous leur espoir dans un voyage à travers le temps pour découvrir les causes de la catastrophe et la prévenir.
Ça, c'est ce qu'ils disent aussi.
C'est James Cole, hanté depuis des années par une image incompréhensible qui est désignée pour cette mission.
Dahu, c'est un complotiste du futur depuis tout à l'heure.
Non, c'est
mais c'est un film qui vous casse le cerveau.
Qui marque, ouais, franchement. Ouais.
Qui broille, qui vous transforme.
D'accord.
Là, je trouve qu'on sent bien la patte de Terry Gilliam. Tous les plans, tu sais, sans bulle, caméra désaxée, grand angle à bout portant
sur les gens,
ouais.
Tous un peu farfelus, ouais. Et tout.
Je sais même pas si les gens sont.
Tu vois, t'es complotiste aussi.
Les scientifiques, t'as l'impression qu'ils manipulent. Enfin, tu sais pas trop.
Tu sais pas trop où tu vas.
Ouais, bah oui, ils savent pas où ils vont. En fait, ils partent du signal qu'ils ont reçu de lui à l'aéroport. Mm. Et à partir de celui-là, ils se sont fait toute la.
Ouais, c'est ça.
Ils se sont fait toute leur vision du futur pour revenir pour le faire.
C'est ça. Et bon, après, il y a tout ce système de voyage dans le temps, cette problématique de. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est réel?
Mais dans celui-là, c'est peut-être un de ceux où il y a le moins de paradoxes, je pense.
Peut-être, mais. Quand même. Mais ce qui me plaît, moi, dans ce film, c'est qu'il reste, mine de rien, très violent. Et tu vois un grand acteur comme Bruce Willis, mais qui est totalement. En dehors de ses rôles habituels.
Ouais, après Bruce Willis, il a fait pas que des films d'action.
Ouais, et surtout il a tout fait Bruce Willis. C'est pour ça que je dis que c'est une
légende. Oui, mais c'est pas non plus Stallone, tu vois, c'est pas le mec à qui il arrive rien et tout. Dans des films, des fois, il est vulnérable.
Non,
il se prend cher dans la gueule. Là, c'est un enfant, des fois.
Bruce Willis, dans tous ses films. Il en prend plein la gueule.
Oui, voilà.
C'est le principe de Bruce Willis.
Mais
du coup, à un moment donné.
merde.
Il n'y a pas un film de Bruce Willis où
Mel
il n'en prend pas plein.
Ouais, comme Mel Gibson.
Non, il y a pas mal d'anecdotes. Après, faut savoir que l'Armée des Douze Singes a germé dans l'esprit du producteur exécutif Robert Cosberg, un grand admirateur du court-métrage expérimental La Jetée, français, de Chris Marker. Il a persuadé Universal d'en racheter les droits et de faire le remake. L'Armée des Douze Singes a été inspirée du roman de Frank Baum, Le Magicien d'Oz.
Comme Lazare d'Oz.
Ouais, exactement. Dans lequel le roi convainc 12 singes de devenir ses soldats. C'est de là dont ils ont tiré le titre.
Ouais, je trouve visuellement, t'as un petit côté. C'est des enfants perdus. C'est Marc Caron, je crois, le décorateur. Hein, de Jean-Pierre Jeunet, un peu.
Il y a toujours un petit
côté. Mécanique, steampunk.
Après, moi, j'aime beaucoup ce film parce qu'il y a cette part de folie. Et une grosse part de folie.
Après, elle est un peu lourde au début, je trouve. Mais j'adore ce film.
Que ce soit dans les acteurs, dans le scénario, dans. C'est un film fou. C'est un film, pour moi, c'est un film fou.
Même la petite musique est assez surprenante. Je sais pas quel est l'instrument à chaque fois là qu'on entend et tout.
Elle est hyper angoissante.
Ouais.
Elle est hyper angoissante.
C'est très british.
On
n'a
pas trop l'habitude dans ce genre de film, je trouve, d'entendre.
Et puis, tu penses que à chaque moment du film, tu vas avoir une explication. Et,
non, tu penses surtout avoir compris.
Oui. Ouais. Et tac, ça rebondit. Et tu penses avoir compris. Tu penses avoir une explication. Et tac, ça rebondit. Tu penses.
Ouais.
Et puis tu prends une grosse claque. Mais la chose que je voulais dire sur ce film, la petite anecdote qui est véritablement intéressante, c'est Cole à un moment donné qui dit « I see dead people », je vois des personnes qui sont mortes. Et cette réplique, on la revoit dans 4 ans après, dans le film Sixième Sens. Mm. Voilà, et très intéressante. Très, 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 très intéressante. Bref, voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, du film.
Oh bah, c'est un classique. Hein.
Vraiment, je crois que c'est mon... Honnêtement, c'est mon préféré de la sélection.
Ah,
je
l'ai 28 vu, revu. Jours plus tard.
Non, mais en fait, ils sont tous bien. Ah, mais celui-là, je le vois, je le revois.
Ouais,
je l'adore.
Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Bah, après, j'ai vu tellement de fois, peut-être pas quand même, mais... T'as moins de surprises, en fait. C'est quand les films, ils marchent que sur la surprise. Ouais, tu regardes d'autres détails.
Ouais, mais justement, quand tu le regardes une deuxième fois, une troisième fois, tu vas t'attarder sur des trucs que t'avais pas vu peut-être une première fois.
Mais j'avais peut-être vu plus que 4 fois, je pense.
Ouais, ouais.
En tout, hein, ça fait plus de 20 ans qu'il est sorti, mais 30 ans.
Mais. Ouais, non, non, franchement, c'est.
Oui, on finir peut, par un grand plaisir. On peut fêter.
Il y a des trucs. Il y a des trucs vraiment cool. Il y a d'autres, je suis un peu. La scène de l'asile, je trouve un peu long quand même.
Et je finirai, je conclurai là-dessus sur la musique sélectionnée par le compositeur Paul Buckmaster. Voilà, sur le thème principal, les doux singes.
Ok, mais avant de se lancer la musique, je te propose qu'on passe à la roulette magique.
Ah !
Pour le prochain thème. Ben de
on
l'émission.
Va demander à Dahu de nous lancer la roulette. C'est parti. Attention, la pression.
Prochain thème. Le stress.
Mère.
Le thème mère.
Alors, ce n'est pas les pères, ça sera les mères. On va parler de vos mères.
On est d'accord.
Voilà, mère, prochain thème, et on se retrouve donc le mois prochain.
Et on se quitte en attendant avec la musique de...
L'Armée des Douze Singes, BO de Paul Buckmaster, le thème original.
Des bisous.
Bisous.